Mes très chers amis, aujourd'hui, nous allons réviser le contenu de notre foi. Et notre foi, c'est, outre l'existence de Dieu, que presque toutes les religions reconnaissent, notre foi, c'est que Jésus est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. Oui, Jésus est vraiment ressuscité et sa résurrection est la base de notre foi catholique. De cette résurrection de Jésus part tout ce qui fait la vie des chrétiens et qui devrait aussi faire la vie de tous les hommes. Car Jésus-Christ, ressuscité, est la clé de toute vie. Comment Jésus est-il la clé de chacune de nos vies? Réfléchissons. Tout d'abord, le Verbe de Dieu, parole créatrice de Dieu, s'est incarné pour être plus proche de l'humanité, devenu douloureuse à cause de ses péchés, donc de son éloignement de Dieu. Car la plus grande des souffrances pour un homme, c'est d'être loin de Dieu. Et Jésus voulut expérimenter cette souffrance, d'abord à Gethsémani, lorsque son humanité a comme défailli, lorsque, soumise à la plus grande souffrance qu'un homme soit capable de porter, et à un point tel qu'il ne put s'empêcher de crier vers le Père, « Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, mais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Alors le Père envoya son ange conforter l'humanité de Jésus. Et Jésus, Verbe de Dieu incarné, donc tout à fait homme, put aller vers sa passion, se souvenant que très peu de temps avant, il avait loué Dieu son Père en lui offrant son sacrifice résumé dans l'Eucharistie. « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Maintenant, Jésus peut aller vivre son sacrifice. D'abord son arrestation et le jugement inique qu'il devra subir, puis sa flagellation et son couronnement d'épines, son chemin de croix et sa crucifixion, et enfin sa mort. Pour les apôtres, ce dut être terrible, car Jésus, leur maître et leur raison de vivre, n'était plus. Mais Jésus avait annoncé sa résurrection, et cela se produisit le troisième jour après sa mort, comme il l'avait dit. Oui, Jésus est vraiment ressuscité et tous ses disciples l'ont vu. Aujourd'hui, Jésus est toujours vivant et il continue de nous donner sa vie. Le corps mystique de Jésus vit et nous, nous vivons dans son corps mystique dont nous sommes les membres ou plus scientifiquement, donc plus prosaïquement, les cellules vivantes. En conséquence, nous sommes dans le cœur de la sagesse, cette sagesse de Dieu, notre Créateur et Père, qui est à la fois amour et intelligence créatrice. Relisons quelques versets du chapitre 9 du livre de la sagesse. Seigneur, la sagesse est avec toi, elle qui connaît tes œuvres, elle qui était là quand tu faisais le monde, elle qui sait ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes commandements. Fais-la venir de ton sanctuaire céleste, envoie-la de ton trône de gloire, afin qu'elle soit avec moi dans mes fatigues et que je connaisse ce qui te plaît. Elle sait tout, elle comprend tout, elle me guidera intelligemment dans mes actions et me protégera par sa gloire. C'est la Sagesse, chapitre 9, versets 9 à 11. Le cœur de Jésus est la manifestation de l'amour du Seigneur et de sa fidélité, comme l'indique le psaume 116. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Mais qui peut comprendre l'amour de Dieu? Nous savons que l'homme fut associé à l'acte divin du Créateur lorsque Dieu unit l'homme, Adam, et la femme, Ève, afin qu'ils puissent poursuivre son œuvre. Dès lors, l'homme qui est associé à l'acte créateur de Dieu en continuant à procréer des hommes est très heureux, ou du moins il le serait s'il n'avait pas péché. De plus, il y a un autre amour qui fait que l'homme est vraiment un homme. L'amour de Dieu qui aime l'homme et l'amour que l'homme doit rendre à Dieu. Tous les hommes devraient remercier Dieu de la vie qu'il nous donne et le mariage est l'exemple le plus visible de l'amour partagé. À l'image de l'amour de Dieu, l'homme aime sa femme et la femme aime son époux. Peut-on aller encore plus loin dans l'amour de Dieu? Oui, bien sûr, car il est des personnes que Dieu veut pour lui seul et que l'on nomme des consacrés. Tout au long des siècles, il y en eut de nombreux. les patriarches, les prêtres juifs qui servaient au temple, puis les rois et les prophètes. Jésus ira encore plus loin pour ramener les hommes à la vérité. Ainsi, il mentionnera non pas les eunuques connus alors à son époque, ceux qu'ils l'étaient naturellement, et surtout ceux qu'ils l'étaient par la main des hommes. En effet, il faut savoir que depuis toujours, comme il naît à peu près autant d'hommes que de femmes, lorsque des hommes s'octroient plusieurs femmes, il faut bien qu'ils se préservent de ceux qui restent. Donc on les mutile, on en fait des eunuques. Mais les eunuques dont parle Jésus, ce sont ceux qui le deviendront pour répondre à un appel de Dieu. En effet, Jésus aura besoin d'hommes qui lui seront entièrement consacrés, entièrement à ce service, donc au service de Dieu. Et ces consacrés, hommes ou femmes, le seront après un choix libre, choix mû par un acte d'amour. Alors, après avoir parlé des eunuques mutilés par la main des hommes, Jésus parlera des eunuques qui le seront volontairement, mais sans mutilation, pour répondre à un appel de Dieu. Jésus annonce ainsi la venue des futurs consacrés, ceux qui, entendant son appel, laisseront tout pour le suivre. Et c'est ainsi que Jésus ira chercher ses futurs apôtres, et à chacun il dira « Viens, suis-moi ». Ces appels peuvent s'adresser à tout le monde, car parfois, surtout de nos jours, et pour effectuer des missions très spéciales, Jésus appellera non seulement des célibataires, mais des couples mariés pour donner des exemples de sainteté, y compris dans les familles. Car le mariage est sacré et fait partie de la nature humaine telle que Dieu l'a voulu. Il est curieux de constater aussi que, depuis l'origine des hommes, toutes les civilisations ont estimé le mariage et le respect des vierges. On peut citer les Vestales de l'Empire romain et même les sacrifices de jeunes vierges qui, dans certaines religions, notamment chez les Incas, étaient offertes aux dieux. Chez les Juifs, virginité et chasteté étaient très estimées, et l'on connaît des pratiques des Esséniens, dont Jean-Baptiste fit peut-être partie. Il faut encore citer quelques prophètes choisis par Dieu, qui, comme le diront Gédéon, Jérémie ou Isaïe, ne purent résister à la volonté de Dieu qui les avait choisis pour remplir une tâche bien spécifique, annoncer sa parole. Nous nous demandons immédiatement, comment cet appel de Dieu s'est-il manifesté? Pour Jérémie, Isaïe ou Gédéon, la force de Dieu était si forte en eux qu'ils étaient obligés de parler et d'annoncer la parole de Dieu. Mais les autres, mais les prêtres et les religieux, comment peut-on encore aujourd'hui, dans notre monde si bruyant, entendre la voix de Dieu? En effet, comme nous le rappelle le livre de la Sagesse, quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont mesquines et nos pensées chancelantes, car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à portée de la main. Qui donc a découvert ce qui est dans les cieux? Et qui aurait connu ta volonté, Seigneur, si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. Ceci est extrait du chapitre 9 de la Sagesse, versets 13 à 16. Alors, comment pouvons-nous entendre l'appel de Dieu? Pensons à tous les martyrs et les saints qui ont su répondre à l'appel de Dieu malgré toutes les difficultés auxquelles ils étaient affrontés et qui leur ont souvent coûté la vie. Des vierges, comme sainte Agnès ou sainte Cécile, ont accepté le martyre pour répondre à l'appel de Jésus et affirmer leur foi. Puis vinrent les ermites poussés au désert. Mais les tentations auxquelles ils pouvaient être soumis étant trop fortes, saint Basile puis saint Benoît les réunirent et rédigèrent des règles de vie en communauté. D'autres saints disent avoir senti, très jeunes, le désir de Dieu sur eux. D'autres, venant de milieux athées ou juifs, ont été affrontés brutalement à un événement qui les a convertis instantanément. Je pense notamment à Alphonse de Ratisbonne. Il y a, malgré leur diversité, comme un dénominateur commun à tous ces appels. Toujours dans la foi, le désir de servir ses frères, soit dans l'enseignement, soit dans le service des pauvres ou des malades, soit par la volonté de répandre l'Évangile ou de délivrer les sacrements. Oui, l'appel de Dieu existe, et l'urgence de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ est toujours présente. Et cela, c'est normal, c'est aussi notre foi. Jésus ayant dit à ses apôtres, juste avant son ascension, « Maintenant, allez !» Enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, nous sommes tous, là où nous sommes, appelés par Dieu à une vocation spécifique, annoncer notre foi. Cela ne l'oublions jamais, car nous devons tous, absolument tous, manifester notre foi en Dieu Trinité, notre foi en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Dieu incarné par la grâce du Saint-Esprit. Oui, nous devons crier à tous les hommes, nos frères, « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, né de la Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit. Je crois en Jésus-Christ, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et est mort sur la croix. Je crois en Jésus-Christ, ressuscité des morts, monté au ciel, assis à la droite de Dieu. Je crois en l'Esprit-Saint, amour du Père et du Fils, je crois en l'Église, que Jésus a voulu une, sainte et apôtre pour le salut de tous les hommes, tous, absolument tous. Je crois à la rédemption que Jésus-Christ est venu nous apporter, à notre propre rédemption et à la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous croyons en vous.